voix Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 26 septembre 2016, en direct de Washington. Jean-Roger Billon et Anne Alberson pour commencer les titres.
Gabon, l'Union européenne a critiqué sévèrement la Cour constitutionnelle qui a validé la réélection d'Ali Bongo Ondimba.
En République démocratique du Congo, 10 rebelles ougandais des ADF condamnés à mort pour des massacres à répétition à Beni et ses environs.
Au Mali, un garde de l'armée malienne et son frère tués par des assaillants non identifiés hier soir à Tombouctou.
Aboubacar Shekau, chef de Boko Haram, refait surface pour parler, pour souligner qu'il est en bonne santé et narguer encore l'armée nigériane.
Syrie, Moscou, mise en accusation hier au Conseil de sécurité de l'ONU, réuni d'urgence à New York.
Ici aux États-Unis, premier grand débat télévisé ce soir entre les candidats Donald Trump et Hillary Clinton. Et ne manquez pas notre page des sports ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
L'Union européenne a sévèrement critiqué dimanche les travaux de la Cour constitutionnelle du Gabon, deux jours après qu'elle a validé la réélection d'Ali Bongo Ondimba, en rejetant la requête de son rival Jean Ping, président élu autoproclamé. L'opposant, qui dénonce un déni de justice, a lancé un appel à la communauté internationale sans préciser ce qu'il en attend. Cette même communauté internationale a pour l'instant accueilli froidement et sans félicitations, selon l'AFP, la réélection d'Ali Bongo.
Comment se présente la situation sur place? Nous retrouvons à Libreville notre correspondant Jean-Rovis Dabani.
L'ambiance calme de ce week-end contrastait avec les scènes de pillage et les émeutes qui ont secoué la capitale gabonaise le 31 août dernier, que beaucoup redoutaient à nouveau. Samedi et dimanche, les forces de sécurité maintenaient une présence discrète sur le front de Bahia, où est situé le palais présidentiel. Même les quartiers très animés le week-end étaient eux aussi calmes. Le plus grand marché de Libreville, Mombouet, est resté ouvert le lendemain de la confirmation de la victoire d'Ali Bongo, qui s'est employé à apaiser les tensions, appelant au dialogue et promettant d'ouvrir le futur gouvernement à l'effigie de l'opposition et de la société civile. Il n'exclut pas que Jean Ping soit convié à en faire partie, avait-il lancé samedi dans une interview à l'agence Reuters. Après avoir gardé le silence pendant plusieurs heures, Jean Ping, qui s'est considéré comme président élu, a qualifié samedi d'injuste la confirmation de la victoire d'Ali Bongo avant d'appeler ses partisans à rester mobilisés et vigilants. L'ONU, par la voix de son secrétaire général Ban Ki-moon, a dit avoir pris note dimanche de la décision de la Cour constitutionnelle, appelant toutes les parties à entamer un dialogue large. Ban Ki-moon souligne que ce dialogue devra être représentatif de toutes les parties prenantes en faveur de la réconciliation nationale et d'une gouvernance inclusive. Auparavant, l'ambassade des États-Unis à Libreville, le Maroc et le président en exercice de l'Union africaine, le Tchadien Idriss Déby Itno, disaient eux aussi avoir pris note du résultat final. Les États-Unis se sont dit préoccupés par les arrestations des supporters de l'opposition. Quelques 800 personnes ont été arrêtées et la moitié déférées au parquet. Quant aux responsables politiques arrêtés ces derniers jours, comme Léon Polongoulakia, il se trouve dans les délais légaux des gardes à vue, a estimé pour sa part Alain Billy Binzier, porte-parole du gouvernement, également ministre de la Communication. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la justice militaire a condamné à mort 10 rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. Ils ont été reconnus coupables de massacres à répétition à Beni et dans ses environs. Idrissa Seydoudia.
Le verdict est tombé tard samedi. C'est hier que maître Idi Djuma, un des avocats de la défense, a annoncé que la cour opérationnelle a rendu 10 arrêts condamnant à la peine de mort 10 prévenus sans leur trouver des circonstances atténuantes. Les décisions de cette cour militaire ne sont pas susceptibles d'appel. La peine de mort n'est plus appliquée dans le pays où elle est systématiquement commuée en prison à perpétuité. Le procès qui a débuté le 20 août visait des auteurs présumés des tueries de Tenambo et Ocha, localités du territoire de Beni. Ces massacres à répétition sont majoritairement imputés aux rebelles ougandais des ADF. Le dernier massacre à l'arme blanche remonte à la mi-août. Selon l'ONU, au moins 50 civils ont été tués en une seule nuit.
Au Mali, double assassinat dimanche à Tombouctou. Selon notre correspondant sur place, Abdoulaye Traoré, qui cite des témoins, 4 individus à bord d'un pick-up ont ouvert le feu sur un garde de l'armée malienne et un de ses frères devant sa porte dans le quartier d'Abaradjou. Le garde est tombé sur place. Son frère lui a tenté de se réfugier dans la maison, mais l'un des assaillants l'a poursuivi jusque dans une chambre pour le tuer. Le garde aurait averti à plusieurs reprises avoir reçu des menaces de mort.
Au Nigeria, le chef du groupe djihadiste Boko Haram, Aboubakar Shekau, a refait surface dans une nouvelle vidéo diffusée dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'est dit en bonne santé et a fustigé des déclarations de l'armée qui l'avait décrit comme grièvement blessé et qui répond en annonçant avoir tué 22 combattants dimanche soir. L'armée avait assuré le 23 août l'avoir ciblé avec ses proches combattants lors d'un raid aérien dans son fief, la forêt de Sambisa, dans le nord-est du pays, et l'avoir grièvement blessé à l'épaule.
La population des éléphants d'Afrique est au plus bas depuis 25 ans, a alerté hier à Johannesburg l'Union internationale pour la conservation de la nature. Son rapport a été divulgué devant les 3500 délégués de la cité. La Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction. Des ONG de défense de la nature veulent profiter de l'occasion pour attirer l'attention sur le pangolin dont on parle peu, à côté des éléphants ou rhinocéros très médiatisés. Ce mammifère insectivore et nocturne aux écailles singulières est devenu l'une des cibles de choix des braconniers au point d'être menacé d'extinction.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les pays occidentaux ont mis Moscou en accusation hier dimanche au Conseil de sécurité de l'ONU, réuni d'urgence à New York. Sur le terrain, Alep continuait d'être bombardé sans relâche par les avions du régime syrien et de son allié russe. Le Conseil se réunissait à la demande des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. Ces pays veulent stopper l'offensive aérienne lancée vendredi par le régime et la Russie pour faire tomber les quartiers d'insurgés d'Alep, ce qui marquerait un coup d'éclat pour Damas dans le conflit.
En Jordanie, un écrivain a été tué par balle hier devant un tribunal d'Amman. Il était jugé pour avoir publié une caricature considérée comme offensante envers l'islam. De nouveau, Idrissa Seydoudia.
Nahed Attar, chroniqueur de confession chrétienne, avait été arrêté le 13 août avant d'être relâché sous caution. Il avait partagé sur son compte Facebook une caricature montrant un djihadiste barbu sur un lit au paradis, entouré de deux femmes et s'adressant à Dieu comme à un simple serviteur. La caricature, dont il n'est pas l'auteur, avait pour titre « Dieu des Daesh », allusion au groupe État islamique. Après sa publication, il a été accusé d'insulte à l'islam qui interdit toute représentation de Dieu. La famille de la victime a assuré que l'écrivain avait reçu des menaces de mort, il n'avait aucune protection et en avait demandé. Sur les marches du tribunal, un homme a tiré trois balles, dont une à la tête. Par la suite, l'écrivain est décédé à son arrivée à l'hôpital. Son assassin a été arrêté sur les lieux. Selon la presse locale, il s'agit d'un ancien imam âgé de 49 ans qui a été remercié il y a 6 ans par une mosquée d'Amman. Le gouvernement a qualifié ce crime d'odieux et promet une punition sévère.
Yémen, un haut responsable des rebelles chiites Houthis, a proposé hier une trêve à la frontière avec l'Arabie saoudite en contrepartie d'un arrêt des raids aériens du royaume contre ses partisans. Cette proposition, faite par Saleh al-Samad, président du Conseil politique suprême mis en place récemment par les rebelles et leurs alliés, intervient au moment où les combats se sont intensifiés au Yémen, y compris à la frontière avec l'Arabie saoudite, après la suspension le 6 août dernier des pourparlers de paix tenus sans succès au Koweït sous l'égide de l'ONU.
Dans la course à la Maison-Blanche, le premier débat présidentiel entre Donald Trump et Hillary Clinton est très attendu ce lundi dans la soirée. Ce duel télévisé sera suivi par un nombre record d'Américains à 6 semaines de l'élection du 8 novembre. Idriss Fall.
Selon des estimations, jusqu'à 90 millions d'Américains seront rivés à leur petit écran pour le premier d'une série de 3 débats. Les 2 candidats auront 90 minutes pour convaincre à l'université Hofstra près de New York. La moindre petite phrase ou incartade aura de lourdes conséquences sur la campagne. Le républicain Donald Trump, 70 ans, se présente comme un outsider, mais devra prouver qu'il a l'étoffe d'un président. 61% des Américains ont une opinion négative de lui à cause de sa personnalité impulsive et sans nuance. La démocrate Hillary Clinton, 68 ans, ancienne première dame, ancienne sénatrice et ancienne secrétaire d'État, va essayer de mieux connecter avec les électeurs. L'affaire de ses emails, la fondation Clinton, ses liens avec Wall Street ont contribué à ternir son image. En avant-goût, ce week-end, Donald Trump a menacé d'inviter Jennifer Flowers, une très ancienne maîtresse de Bill Clinton. Ruby Mook, responsable de la campagne de Madame Clinton, a aussitôt répondu que cela montre quel genre de leader serait M. Trump, le qualifiant de président de la maternelle.
Enfin, la Colombie vit aujourd'hui une journée historique avec la signature de l'accord de paix conclu avec la guérilla des FARC pour mettre fin à plus d'un demi-siècle de guerre fratricide qui a fait des millions de victimes. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Place maintenant à la Minute Éco avec Tatiana Mosso.
Sénégal, les travaux de la centrale à charbon de Saint-Doux à Bargny au sud de Dakar seront finalisés en 2017. Telle est du moins l'assurance donnée le 20 septembre dernier par la Société nationale d'électricité Sénélec. Les populations locales se sont toujours opposées au projet pour des raisons environnementales. À terme, la centrale sera dotée d'une puissance de 125 MW, soit le cinquième de la capacité électrique actuelle du pays. Au Nigeria, une douzaine de compagnies pétrolières étrangères, parmi lesquelles Eni, Chevron et Total, sont accusées d'avoir sous-déclaré leur production. En récession depuis le début du mois, l'État fédéral leur réclame la somme de 12,7 milliards de dollars dans une plainte déposée le 7 juin dernier pour ne pas avoir déclaré l'exportation de 57 millions de barils de brut produits au Nigeria et exportés vers les États-Unis entre 2011 et 2014.
Voici venue l'heure du sport avec Élisée Oumpatine. Du football pour commencer, la finale de la Ligue africaine des champions opposera le Zamalek d'Égypte et les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud.
Oui, le Zamalek, vainqueur 4-0 à l'aller face au Wydad de Casablanca, a eu très chaud puisque le WAC a remporté le match retour 5-2 à l'issue d'un match récambolesque et spectaculaire. Les Chevaliers Blancs du Caire auront le droit de disputer leur septième finale de Ligue des Champions.
Et pour un éventuel sixième titre dans la compétition, les Égyptiens en découdront avec Sundowns le 15 octobre prochain.
Les Sud-Africains qui ont réussi leur pari remonter leur but de retard face à Zesco United, les Zambiens vainqueurs 2-1 à l'aller il y a une semaine, se sont cette fois-ci inclinés 2-0 à Pretoria. Les Mamelodi Sundowns se qualifient donc pour la deuxième finale de Ligue des Champions de leur histoire.
Une deuxième finale d'affilée que l'Étoile du Sahel ne verra pas en Coupe de la Confédération.
Les tenants du titre ne sont pas parvenus à inscrire le but qui leur était nécessaire pour passer devant le tout-puissant Mazembe hier à Lumumbashi. Score final 0-0 dans un match où le suspens est resté entier jusqu'à la fin. Le résultat nul du match aller 1-1, le but marqué à l'extérieur, a au final permis aux Congolais de se qualifier pour la finale.
Élisée, en finale, les Corbeaux vont croiser le Mobejaya.
Les Algériens doivent leur qualification à Faouzi Raal, auteur du but égalisateur à la 90e minute de jeu. Pourtant, le fils de Rabat est allé chercher le nul 0-0 à Kabyle. Les Marocains ont encaissé donc le but qu'il ne fallait pas concéder à domicile. Le Mobejaya jouera pour la première fois de son histoire une finale continentale. Et son adversaire a pour nom le tout-puissant Mazembe de Lumumbashi. Le match aller aura lieu le 30 octobre prochain. Le retour est pour le 6 novembre.
Football toujours, mais celui du sable. Le tirage au sort de la deuxième CAN prévue en décembre prochain au Nigeria est connu.
8 équipes et 2 groupes. Le pays hôte sera dans le groupe A avec l'Égypte, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, on retrouve le tenant du titre, Madagascar, le Sénégal, la Libye et le Maroc. La compétition se jouera du 13 au 18 décembre prochain. Un mot sur le futsal et la Coupe du Monde qui se déroule en ce moment en Colombie et le dernier espoir du continent. L'Égypte a été battue en quart de finale par l'Argentine 5-0. Les Pharaons ont tout de même créé l'espoir en éliminant l'Italie au tour précédent.
Cyclisme pour terminer, le 23e tour de la Côte d'Ivoire a démarré samedi dernier. Et pour l'instant, Élisée, les Marocains sont intouchables.
Oui, après la victoire de Moussine Lassaini l'an passé, les Marocains dominent de nouveau les débats cette année après 2 étapes. Deuxième victoire hier au terme des 132 km qui séparent Bouaké et Dabakala dans le nord-est du pays. Sofiane Adi s'est imposé devant 3 de ses compatriotes en 3h10min28. Au général, Abdel Zahiri est en tête avec 29 secondes d'avance sur Moussine El Kouradji. Troisième étape donc aujourd'hui entre Bouaké et Daoukro, longue de 165 km.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Direction le Gabon, c'est toujours le calme depuis la validation par la Cour constitutionnelle de la victoire du président sortant, Ali Bongo. Pour le 31 août, de violentes émeutes et des pillages avaient suivi la proclamation des résultats provisoires qui avaient donné la victoire à Ali Bongo. Comment expliquer ce calme dans tout le pays? Idriss Fall a joint notre confrère Abel Mimongo du quotidien national L'Union.
Il y a trois hypothèses qui concourent à ça. La première, c'est un fort dispositif militaire qui a été mis à Libreville et à l'intérieur du pays également, dans les principales villes du pays, qui aurait pu effectivement décourager toute tentative de manifestation violente. La seconde, c'est peut-être l'appel du candidat malheureux qui a demandé à ce que les populations restent chez elles. Cela sûrement en raison de ce qui s'était passé le 31 août dernier. Ne voulant plus avoir des morts dans sa conscience, il a demandé à ce que les gens restent chez soi. Et puis l'autre hypothèse, c'est peut-être les parents aussi qui ont demandé à leurs enfants de ne pas bouger parce que effectivement, c'est en se référant à ce qui s'est passé le 31 août dernier.
Le président Ali Bongo a lancé un appel au dialogue. Est-ce que vous pensez que son appel sera entendu par Jinping?
C'est pas possible puisque la réaction ne s'est pas faite attendre. À la limite, le camp de l'opposition a trouvé cet appel comme étant de l'humour noir. Ils ont rigolé en se disant mais comment quelqu'un qui a perdu les élections peut demander aux gens de venir parler de quoi d'ailleurs? Ils ont considéré ça comme de l'humour noir tout simplement.
Mais comment voyez-vous l'avenir? C'est-à-dire que Jinping continue de dire que c'est lui, en fait, le président clairement élu.
L'avenir, c'est un avenir social et économique parce que en fait, au Gabon, il y a cette habitude qui consiste souvent à laisser les choses se dérouler telles qu'elles sont et puis voir le pouvoir être confronté à ses propres problèmes. On aura forcément des difficultés d'un point de vue social, sans compter les difficultés économiques. Socialement, ce sont les rentrées scolaires qui seront difficiles. Il y aura forcément des arrêts de travail, des manifestations ici et là. Et il va falloir combattre les brèches. Il y a des gens qui ont perdu des parents, des enfants, et tout cela va faire en sorte que le pays soit, on va dire, coupé en deux.
Et on nous dit qu'il y a quand même des arrestations jusque-là?
Oui, oui, l'arrestation continue. Ce qui est plus grave, c'est que les gens débarquent chez vous à des heures tardives. Les gens qui ont été arrêtés, lorsqu'ils ont des gens qui les connaissent, ils sont tout de suite interpellés, portent sur eux des accusations, faisant état de ceux qui sont complices. Donc même les proches, aujourd'hui, vivent dans la psychose d'une arrestation, à tout moment.
Et Internet vient au compte-gouttes aussi, nous dit-on, surtout la nuit.
La situation ne s'est pas améliorée depuis le 31 août. On peut consulter Google de 6h du matin à 18h le soir. Et sans plus, les réseaux sociaux sont coupés. En tout cas, il n'y a rien sur Internet qui fasse que les choses soient revenues à la normale.
Notre confrère Abel Mimongo du quotidien national L'Union à Libreville.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Congo, Brazzaville, la majorité présidentielle propose à l'opposition de se retrouver autour des valeurs de la nation dans le cadre de la formule « vivre ensemble » plutôt que d'un dialogue entre cette période de tension. Mais les opposants tiennent à un dialogue inclusif. À Brazzaville, Nguela Ngoussou.
À l'opposition, on pense que c'est une diversion. Un dialogue inclusif ne peut être remplacé par une simple formule « vivre ensemble », affirme le président de la plateforme IDC, René-Serge Blanchard-Ouba.
Nous ne demandons que de parler, qu'on discute et que l'on constate que la situation politique actuelle ne nous permet pas d'avancer sereinement. Ce n'est pas le vivre ensemble, parce que nous vivons ensemble depuis des années dans ce pays. Nous vivons tous ensemble, mais ce que nous demandons, c'est que nous puissions parler des problèmes qui, aujourd'hui, causent du tort à la nation. Le pays ne vit plus. Le pays est quasiment en arrêt.
Mais à la majorité présidentielle, les mots ne manquent pas pour expliquer le vivre ensemble. Côtoyons-nous d'abord et on discutera après, d'après Didier Clotaire-Boutindi.
Le problème aujourd'hui, ce n'est pas de dialoguer. C'est pas le dialogue qui est important. Pour le moment, non. Pour le moment, il faut qu'il y ait d'abord le vivre ensemble. C'est-à-dire que tu me fais confiance, je te fais confiance. Il faut que nous soyons d'abord en harmonie. C'est ça le problème. On peut aller dans la salle du palais de congrès, on peut aller dialoguer, mais si tu et moi, on ne s'entend pas, le fait qu'on ira là-bas, on va trouver une solution. Non. Il faut que nous nous entendons d'abord. L'élection présidentielle est passée. En 2017, ce sont les législatives. Il faut que cette ambiance-là revienne. Nous devons nous faire tous confiance. J'ai été au dialogue de Sibiti, où la main était tendue à l'opposition. Ils ne sont pas venus. Ils ont fait leur dialogue à eux, à Diata. Maintenant, ils demandent aujourd'hui qu'on fasse un dialogue.
Une explication que ne comprend pas la société civile. L'abbé Félicien Mavungu, de la commission justice et paix de l'église catholique, fustige les dialogues à répétition et le vivre ensemble. Il prône simplement le respect de loi.
Notre combat comme église, comme commission justice et paix, c'est le respect de la légalité constitutionnelle. Non, nous sommes pour le vivre ensemble, mais il faut bien qu'on échange, qu'on dialogue, mais pas de manière ponctuelle, mais de manière permanente, pour garantir ce vivre ensemble. Mais la meilleure garantie du vivre ensemble, c'est le respect des lois, le respect des constitutions, le respect de la légalité.
Progressivement et dans la douceur, l'idée du vivre ensemble fait son petit chemin, soutenu par Hugues Ngolo-Ndele, le maire de Brazzaville, et maintenant par le Premier ministre Clément Mwamba Nguela Ngoussou. Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville sur le 101.9 FM.
En RDC, série de manifestations contre le cantonnement au Nord Kivu des ex-rebelles sud-soudanais fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar, réfugié dans le pays après leur défaite fin juillet et début août dernier. Précision de notre correspondant sur place, Charlie Kasereka.
Ils sont cantonnés dans différents sites et autour de la ville de Goma. La mission onusienne en RDC affirme avoir extrait 630 ex-combattants du chef rebelle sud-soudanais Riek Machar du parc de la Garamba au nord de la RDC, à la frontière avec le Sud-Soudan. L'un des porte-parole de la MONUSCO, Antoine Charles Bambara, précise que l'action a été menée à la demande du gouvernement congolais.
C'est pour des raisons essentiellement humanitaires et cette opération, une fois de plus, a été faite en liaison avec le gouvernement de Kinshasa. Beaucoup de ces combattants ou même de ces civils qui ont traversé la frontière étaient dans un état sanitaire, nutritionnel déplorable. Et c'est pour ces raisons et ces raisons seules qu'ils ont été extraits du parc de la Garoua pour être acheminés à Dungu, à Bunia, à Munigi et puis à Goma. Nous savons tous qu'ils ne peuvent pas rester indéfiniment ici.
La population et une vingtaine d'associations de la société civile au Nord Kivu s'inquiètent que cette entrée ne puisse emprunter les scénarios des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Les FDLR entrés en RDC en 1994 après le génocide au Rwanda et qui se sont constitués en milice.
Nous ne voulons pas que l'histoire puisse se répéter, ça se répète toujours dans le Kivu. Loin de nous l'intention de ne pas être hospitalier envers ces gens-là. On est venu les soigner, mais nous pensons que nous n'avons pas les meilleurs hôpitaux ici, mais c'est mieux qu'on les amène dans d'autres pays, mais pas dans la RDC et surtout le Nord Kivu.
Rappelons que la MONUSCO n'a aucune mission d'importer des étrangers militaires comme réfugiés dans un État souverain, recommande ce qui suit. Rapatrier ces éléments dans leur pays d'origine ou dans un autre État qui les accepterait sans délai ni préavis.
Le ministre de la Communication, Lambert Mende-Omalanga, a fait savoir que des démarches sont en cours pour une solution rapide.
Il y a des gens qui sont blessés, qui ont besoin d'assistance. La MONUSCO nous a approchés pour nous demander qu'on puisse leur trouver un endroit où on peut les soigner. On les a désarmés tous. Ils sont en train de recevoir des soins et avec le Sud-Soudan et la MONUSCO, nous sommes en train de travailler pour qu'ils puissent trouver un asile ou rentrer chez eux.
Ces associations promettent d'intensifier leurs actions si les revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement et par la mission onusienne en RDC. Charlie Kasereka, depuis Goma, pour la VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Notre rendez-vous quotidien sur la course à la Maison-Blanche ici aux États-Unis. Elle est dominée par le premier duel télévisé de ce soir entre les deux candidats, Donald Trump et Hillary Clinton. Le point avec Salwa Jafari.
Pour l'instant, aucun des deux candidats à la Maison-Blanche ne part favori. Ils sont à couteau tiré depuis un an, s'accusant de tous les maux, mais ne se sont jamais retrouvés en face à face. L'enjeu est de taille. C'est vrai que beaucoup d'électeurs ont déjà fait leur choix, mais les débats peuvent toutefois avoir un impact sur les indécis qui décideront du successeur de Barack Obama. Et cette année, ils sont plus nombreux qu'il y a 4 ans. 9% des électeurs selon un sondage NBC. Pour comprendre un peu l'importance de ce débat, je vous propose tout d'abord d'écouter Jeremy Meyer de George Mason University et Stephen Wayne, il est de Georgetown University.
Le débat établit la stature. Ça vous permet de vous tenir sous le même pied d'égalité avec quelqu'un de très connu.
Les débats présidentiels sont importants lorsque les candidats sont très proches dans les sondages. La plupart des gens qui suivent les débats espèrent que leur candidat favori fasse une bonne performance.
Alors voilà, vous entendez la voix de Nixon, et c'était lors du premier débat télévisé dans l'histoire américaine qui s'est tenu en 1960 et qu'il a opposé à John Kennedy du Massachusetts. La brillante performance de Kennedy a grandement contribué à l'issue des élections.
No Soviet domination.
En 1976, le président Gerald Ford s'est tiré une balle dans le pied, si je puis me permettre l'expression, en répondant à une question sur l'influence de l'Union soviétique en Europe de l'Est. Résultat, Jimmy Carter l'a remporté. Ce qu'il a dit exactement, c'était que l'Union soviétique ne domine pas l'Europe de l'Est, ce qui est totalement faux, bien sûr. Jimmy Carter, bien évidemment, ne s'est pas gêné. Il s'est jeté sur l'occasion pour le ridiculiser. Ford a perdu l'élection cette année. On termine avec Reagan. La question qu'il a lancée à ses électeurs en fin de débat est devenue un classique.
Next Tuesday, all of you will go to the polls. You'll stand there in the polling place and make a decision.
Quand vous prenez cette décision, vous devez vous demander, êtes-vous dans une meilleure posture qu'il y a 4 ans? Alors je crois que beaucoup d'électeurs américains se posent la même question. Qui est à même d'améliorer ma vie, mon pays, l'image de mon pays, Clinton ou Trump? Les deux candidats auront l'occasion de convaincre pendant les débats, il y en aura 3. Clinton est souvent perçu comme trop cérébral, Trump trop viscéral, impulsif. Le débat risque en tout cas d'être explosif.
Merci Salwa. VOA Afrique suivra pour vous le débat présidentiel.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you.
Voilà, le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, ce sera tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde technique Charles Hall. Un grand merci à toute la rédaction. Jean-Roger Billon à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.